C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est l'heure du Canu Info. Il est 19h passé de 1 minute. Nous sommes le mercredi 23 janvier. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Ah, et bien toi, je vois que tu as des fils d'infos sous tes yeux, ce qui n'est pas mon cas. Alors tu pourras nous dire plus que moi.
Donc, nous allons parler de la loi anti-casseurs qui est passée par l'Assemblée aujourd'hui. Vous inquiétez pas, elle n'a pas du tout encore été votée, mais elle a été par contre modifiée. Nous allons ensuite parler de répression policière dans le mouvement des Gilets jaunes. Et ensuite, nous allons parler de la République démocratique du Congo, où Félix Tshisekedi prêtera serment demain. Et ensuite, nous parlerons de Gaza, où il y a des nouvelles tensions avec Israël. Et nous en profiterons pour parler de BDS, boycott des investissements, sanctions, et de l'action à l'Eurovision. Ensuite, ce sera la rubrique « Il faut que ça se sache ». Et il y aura différentes brèves entre des personnes qui continuent à mourir en Méditerranée, les grèves de la faim qui continuent dans les centres de rétention et des personnes en procès pour avoir retardé le décollage de deux avions.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Et Oxfam vient de publier son rapport annuel, comme chaque année on en parle. La concentration de la richesse est encore accentuée en 2018. Et donc ce sont 26 milliardaires qui ont désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc d'année en année, ça s'empire. L'écart continue à se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. Et le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008. Donc on parle de crise financière, mais on voit bien à qui elle profite.
On voit dans le studio.
Et si le nombre de milliardaires a doublé, c'est bien, que le fait d'être milliardaire s'est démocratisé en quelque sorte.
Et oui. Ah, merci. Enfin une vision optimiste.
Donc les riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi de niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies. Alors voilà une réponse facile et claire à la question « Pourquoi faut-il remettre en vigueur l'ISF ?» Grâce aux quelques infos que je viens de vous donner, c'est-à-dire que 26 milliardaires ont désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et oui, le capitalisme peut prendre diverses formes, libérales, sociales, vertes, mais sa base restera toujours et toujours la même. Les riches accumulent, les pauvres triment. Et donc, parlons de loi anti-casseurs qui a été modifiée à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, c'était une proposition de loi LR, Les Républicains, donc qui a déjà été votée par le Sénat en octobre et qui a été largement réécrite par la Commission des lois de l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'article donc sur la création d'un fichier dédié aux casseurs a notamment été supprimé, tout comme la mise en place de périmètres de sécurité pour contrôler les manifestants. Donc ils ont supprimé en attendant, donc c'est parce qu'ils attendent une nouvelle formulation proposée par le gouvernement, son article premier qui était contesté jusqu'au sein de la majorité. Donc c'est pour préciser, il prévoyait que le préfet puisse autoriser pendant les 6 heures qui précèdent une manifestation et jusqu'à dispersion dans un périmètre délimité des palpations de sécurité et fouilles de sacs. Donc la commission des lois est aussi revenue sur l'idée de créer un fichier national des personnes interdites de manifestation en adoptant un abonnement pour que les interdictions judiciaires de manifester soient plutôt inscrites au fichier des personnes recherchées FPR. Donc on pourrait se dire que c'est bien, en fait il le justifie en disant que la création d'un nouveau fichier ça prendrait des mois, alors que là c'est une petite manip qui leur permet de ficher plus rapidement plus de gens. Et entre autres, les députés ont aussi tenté de circonscrire le nouveau délit de dissimulation du visage dans une manifestation, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Donc l'évolution envisagée sur le port d'armes lors d'une manifestation a été supprimée, comme l'avait annoncé la veille Christophe Castaner. Et le texte ainsi amendé sera examiné dans l'hémicycle mardi et mercredi prochain.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et donc, depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, plusieurs recensements font état d'au moins 97 blessés graves par les armes de la police, dont 4 ont eu la main arrachée, au moins 14 ont perdu un œil. Donc la faute, bien évidemment, aux lanceurs de balles de défense, aux grenades GLI F4 et à une doctrine de maintien de l'ordre d'une violence à la française. Et donc il y a pas mal d'articles qui sont parus là-dessus. Et il y a une petite vidéo d'Amnesty International qui a été publiée le 17 janvier. Donc sur les réseaux sociaux, sur le droit de manifester en France au regard du droit international. Donc c'est la série Éclairage et l'épisode s'appelle Violence, interdiction de manifestation, on fait le point. C'est une vidéo donc qui explique le droit de manifester et les armes de la police. Donc on vous conseille d'aller voir. Bon, mais qui, comme souvent lorsqu'on se cantonne à la loi, manque de cas pratiques. Mais du coup, je trouve ça assez intéressant qu'Amnesty International, là, fait un truc pour rappeler le droit de manifester en France.
Radio Canu.
Et la prestation de serment du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va finalement avoir lieu demain. Alors le côté positif, c'est que c'est la première passation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge, donc qui après avoir été Congo belge a été le Congo, puis le Zaïre, puis la République démocratique du Congo. Et donc c'est ouais, tout ça depuis le 1960, la date de l'indépendance. Alors à part ce petit côté positif, on rigole quand même moins. Je vais rapidement là, mais Joseph Kabila, qui est encore président donc à l'heure où je vous parle et jusqu'à demain, avait plus ou moins hérité la présidence de son père. Depuis plus de 2 ans, il repousse les élections sous différents prétextes et il reste au pouvoir. Il a essayé de modifier la constitution pour pouvoir se représenter une nouvelle fois. Comme ont essayé plein de présidents africains avec plus ou moins de succès. Mais là, l'opposition a été assez massive, assez déterminée pour le faire renoncer. Il faut souligner qu'en l'occurrence, l'Église catholique a joué un rôle assez important là-dedans, dans le fait de le faire renoncer. Il faut le souligner parce que je vais reparler de l'Église catholique un tout petit peu après. Alors Kabila, après une fois qu'il a vu qu'il n'arriverait pas à se représenter encore, il a essayé de faire élire une marionnette, un gars qui s'appelait Ramazani Chadari, et de nous faire le coup dit de Poutine Medvedev, c'est-à-dire un président marionnette et lui derrière qui tire les ficelles du pouvoir. Bon, son candidat a été battu. Alors certainement, hein, parce que ces élections sont contrôlées en RDC par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Tout le côté rigolo du truc est dans le I de indépendant. La CENI a fini par ne même pas oser déclarer vainqueur ce Ramazani Chadari. Alors que tout le monde s'attendait à ce que la CENI le déclare vainqueur, coûte que coûte. Mais là, pour le coup, il y avait des observateurs internationaux, il y avait l'Église catholique qui était très 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 au taquet là-dessus, et les résultats étaient attendus relativement rapidement, et puis finalement la CENI a attendu un peu. Là, l'Église catholique a dit...
Il y a aussi de gros mouvements de manifestations,
Bien sûr, de toute façon, depuis deux
vote,
ans.
Quoi.
Oui, oui. Mais là, au bout d'un moment, où la CENI ne dit rien, l'Église catholique a dit « Nous, on sait qui a gagné, mais ils n'ont pas donné de nom. » Là-dessus, vraisemblablement, détractation un peu dans tous les sens. Et là-dessus, la CENI donne un nom. Et elle donne le nom de Félix Tshisekedi. Sauf que, visiblement, tous les observateurs, eux, étaient convaincus de la victoire d'un autre opposant, un certain Martin Fayoulou. Visiblement, c'est quand même pour lui que le plus de gens ont voté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, globalement, l'hypothèse communément admise, c'est que Tshisekedi s'est arrangé avec Kabila pour, alors on ne sait pas exactement, lui laisser un rôle dans son gouvernement, pour lui repasser le pouvoir plus tard, pour quelque chose comme ça. Et donc là-dessus, Kabila a téléphoné à la CENI, a dit « Ok, c'est bon, vous avez qu'à dire que c'est Tshisekedi qui a gagné », vu que lui avait sans doute bien moins perdu que le candidat, le Ramazani Chadari. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? C'est que globalement, tout le monde a été un peu prudent avec ce résultat. Fayoulou, lui, a commencé par appeler un peu ses partisans à descendre dans la rue, mais pas trop. C'est-à-dire que là, ils sont quand même plus poussés à essayer des recours légaux. Mais du coup, là, le recours de Fayoulou a foiré. La France a commencé par dire qu'il ne croyait pas trop au résultat de ces élections. La Belgique a fait pareil. L'Union africaine a fait un peu pareil aussi, et puis là, ça a discuté à gauche, à droite, nanana. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, l'Union africaine et l'Union européenne ont fait un communiqué en commun, où elles ont indiqué qu'elles étaient prêtes à travailler avec le président Tshisekedi et avec toutes les parties congolaises. Bref, ils valident l'élection en RDC, ce qui est d'un côté un peu foutage de gueule, d'un autre côté, l'Union africaine, c'est autre chose, mais l'Union européenne, en tout cas... C'est difficile de dire si on aurait préféré qu'elle ferme sa gueule une bonne fois pour toutes dès le départ, ou qu'elle reste jusqu'au bout sur l'option de maintenir le candidat qui a vraisemblablement réellement gagné. En fait, peut-être qu'on aurait préféré qu'elle ferme sa gueule. Toujours est-il que là, finalement, ils disent qu'ils acceptent le verdict de RDC. Alors, bien sûr, c'est pas réellement le verdict des urnes, c'est certainement pas le verdict du peuple, c'est le verdict d'un bidouillage avec la commission électorale. Bon, Martin Fayoulou, le candidat malheureux, celui qui a sans doute eu le plus de voix, mais pas officiellement, lui reconnaît toujours pas sa défaite. Il essaye encore de mobiliser la rue, cette fois, mais pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas trop de succès. Il a fait un meeting, mais il n'y avait pas grand monde. Et on dirait que la population, finalement, n'est pas si passionnée que ça par l'idée d'aller se faire trouer la peau dans la rue, dans des manifestations violentes, pour avoir un candidat plutôt qu'un autre. On dirait que tout le monde est soulagé d'avoir un nouveau président, c'est-à-dire que Kabila soit enfin barré. Mais moyennant quoi, dans la mesure où personne ne se fait tuer, ils sont pas mécontents, même si le président n'est pas vraiment celui qu'ils ont choisi.
Aussi, je vais vous arracher cette dent de gré ou force de là, hein, Ne l'écoutez pas, c'est mon beau-frère. Il est douillet comme une fillette. Allez-y, et du camp. Vous en faites pas, je l'aurai. Mais il est fou. Il est fou, il me marche dedans.
Mais elle est très mauvaise. Si vous la gardez, vous souffrirez terriblement.
Ah, c'est pas moi, c'est lui.
Ah, écoute, le docteur, vous en fait un enfant.
Non, mais vous croyez que c'est vraiment nécessaire?
Mais indispensable, manger d'infection. Cette tissémie, ostéite, agonie, atroce. Hésiteriez-vous?
Oh non.
Bravo, rappelez-lui, je suis à vous.
Et bien sûr, cet extrait de film, je ne sais même pas c'est quoi. On va parler de la bande de Gaza. Puisque hier, mardi 22 janvier, l'armée israélienne a bombardé plusieurs sites militaires du Hamas au nord de la bande de Gaza. Et un membre en fait, de la branche armée du Hamas a été tué par un tir d'artillerie et un soldat israélien a été légèrement blessé par un sniper palestinien au cours d'une manifestation près de la ligne de séparation. Donc, suite à ces événements qui sont quand même réguliers et fréquents dans la bande de Gaza, Israël a décidé de ne pas autoriser le versement de l'argent du Qatar, attendu pourtant aujourd'hui, mercredi 23 janvier. En fait, depuis novembre, Israël laisse entrer 15 millions de dollars en espèces via un convoi diplomatique tous les mois. C'est une somme destinée à payer des fonctionnaires, voilà. Mais le versement de janvier est suspendu depuis 2 semaines, sans raison officielle. Donc, encore un moyen de pression de l'État d'Israël. Donc, quand il limite les quantités de bouffe, il limite les quantités d'argent et le passage des humains, bien évidemment. Donc ça c'est les infos très récentes et pour ce qui est de la mobilisation pour soutenir les Palestiniennes, à Paris, 4 personnes opposées à l'organisation de l'Eurovision en Israël sont montées sur scène en début du direct de l'émission Destination Eurovision. Alors je sais pas si vous l'avez vu, moi je n'ai pas regardé la télé samedi sur France 2. Mais donc on a vu 2 personnes qui ont brandissé des slogans anti-israéliens et on pouvait lire notamment non à l'Eurovision 2019 en Israël et pas de service public au service de l'apartheid. Donc ce happening s'est déroulé à peine 10 minutes après le début du direct et donc c'était à ce moment-là deuxième demi-finale du concours musical et donc après il a repris son cours normal. Donc cette action a été revendiquée par BDS, donc Boycott des Investissements Sanctions. Et sur le site de BDS France, vous pouvez trouver une lettre adressée aux chanteurs et chanteuses qui ont été sélectionnés pour participer à l'Eurovision, ayant l'intention de représenter la France au prochain concours européen qu'est l'Eurovision, annoncé cette année en Israël. Et donc cette lettre pour rendre plus claires les politiques d'Israël contre les Palestiniennes et une lettre pour les convaincre de renoncer à se produire au service du régime d'apartheid qu'impose l'État israélien. Et moi je trouve qu'il manque dans cette lettre une critique de représenter la France parce qu'elle est tout à fait critiquable dans ses actions militaires hors France, dans sa répression des mouvements sociaux et dans ses politiques coloniales. Voilà, et mais bref, allez la lire, elle est quand même intéressante sur le site de BDS. Et en parlant donc de BDS, je vais pouvoir annoncer que la 15e semaine contre l'apartheid israélien aura lieu dans le monde entier entre le 18 mars et le 8 avril 2019. Et cette année, c'est sur le thème « Stop à l'armement du colonialisme ». Donc je l'annonce à l'avance parce que l'idée, c'est de cette semaine-là d'organiser des événements, des actions, donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir à ce qui pourrait se faire là où vous habitez, à Lyon ou dans l'agglo lyonnaise. Et je vais, comme on a un peu de temps là, je vais vous raconter sur le site de BDS qu'on trouve là en termes d'argumentaire sur l'armement du colonialisme. Donc parce que Israël parvient à maintenir son occupation illégale et son régime d'apartheid sur les Palestiniennes grâce en partie à ses ventes d'armes et au soutien militaire qu'il reçoit de divers gouvernements par le monde. Les États-Unis à eux seuls sont le plus gros fournisseur d'armes et d'aide militaire à Israël, suivi par des États européens. Ces États apportent ainsi un soutien direct à l'oppression et aux violations des droits humains par Israël. Entre parenthèses, la politique de la France, c'est de, avec sa main gauche, envoyer des armes et vendre à plein pot des armes à Israël, et de sa main droite, écrire des communiqués comme pays des droits de l'homme, et en s'offusquant d'un certain nombre de manques de droits des Palestiniennes. Donc une politique depuis longtemps hypocrite. Dans les pays dits des Suds, Israël est connu pour avoir livré des armes à des régimes génocidaires au Rwanda, au Sri Lanka, au Myanmar et ailleurs. Actuellement, Israël est un exportateur d'armes de premier plan vers des régimes autoritaires du Brésil à l'Inde, aux Philippines et au-delà. La promotion de ces armes se fait parce qu'elles sont testées sur le terrain. Ce qui veut dire qu'elles ont été utilisées pour tuer ou blesser des Palestiniennes. Donc les vendeurs d'armes israéliens s'en vantent et en sont fiers, malheureusement. En fait, Israël est déjà engagé dans la promotion de la technologie utilisée pour réprimer la grande marche du retour de Gaza qui revendique le droit au retour des réfugiés chez elle à la fin du siège. Ces ventes d'armes financent le régime d'apartheid d'Israël et son occupation illégale, tout en accentuant simultanément la militarisation et la persécution du mouvement populaire et de localités opprimées dans les pays qui les achètent. Le mouvement BDS dirigé par les Palestiniennes a réitéré la demande d'un embargo militaire sur Israël au vu de la violente répression par Israël de la grande marche du retour. Des organisations de défense des droits humains dans le monde, comme Amnesty International, ont aussi formulé cette demande en réponse au massacre israélien à Gaza. L'arrêt du commerce des armes, de l'aide et de la coopération militaire avec Israël minorera le soutien financier et militaire à son régime d'apartheid, au colonialisme de peuplement et à l'occupation illégale. Cela mettra fin aussi au flux d'armes israéliennes et des technologies et techniques sécuritaires vers des gouvernements qui répriment la résistance de leurs propres citoyennes, les mouvements populaires et ceux des communautés contre les politiques qui les privent de leurs droits fondamentaux, dont le droit sur les ressources naturelles et leur pays. Voilà, donc la semaine 19 contre l'apartheid israélien sera donc une plateforme importante pour la construction de la campagne pour un embargo militaire contre Israël. Donc voilà pour quelques infos sur les campagnes BDS actuelles.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'il soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Eh ben, en parlant d'armes du colonialisme, parlons des logiques de migration et de Frontex, qui est une belle promotion de vente d'armes et de sécurité en général.
Et on va voir aussi comment la justice applique... applique tout ça en France. En tout cas, on va aller du côté de Bobigny et c'est trois personnes qui comparaissaient pour entrave à la circulation d'un aéronef. Ça, c'est le chef d'inculpation. Ça veut dire qu'en gros, les personnes ont empêché un avion de décoller. vous allez voir. Alors c'est tout d'abord au tour de Caroline. Alors je précise, hein, tous les prénoms ont été changés. De passer devant le juge, ça se passe le 30 juillet. Donc elle, elle est passée, c'est quelques jours, mais elle, elle embarque le 30 juillet 2018 dans un avion avec son mari arménien et leur gamine de 14 mois, direction Erevan en Arménie. Alors après être allé changer sa fille dans l'endroit où vers les toilettes là où on fait ça dans les avions, elle entend des cris, elle va voir ce qui se passe, ça, ça l'interroge, et là elle voit un homme maintenu par des policiers, elle voit que l'homme a un masque sur la tête qui lui recouvre entièrement le visage. Et donc devant ça, elle refuse catégoriquement de retourner s'asseoir. Elle demande au policier pourquoi il est bâillonné et casqué. Les flics lui répondent qu'il a violé une mineure. Affirmation par la suite démentie par l'avocat de Caroline qui prouve qu'il est juste, enfin qu'il a été expulsé de France pour situation irrégulière et qu'il n'a jamais été condamné en rien du tout. Caroline a été débarquée à la suite de ça de l'avion sans sa fille et son mari. Les deux autres prévenus étaient eux dans le tous les deux dans le même vol direction moi j'ai plus la direction. Bref, mais en tout cas pas le même avion que Caroline. Ils ne se connaissaient pas du tout avant cette histoire, mais leur histoire entre Caroline et ces deux autres personnes est assez similaire. Un homme est maintenu de force sur son siège, pardon. Un tissu dans la bouche, un casque sur la tête, les pieds et les mains liés. La personne est bâillonnée, elle hurle et se débat. Là, plusieurs personnes protestent, dont Jean-Luc et Armand qui comparaissent ce jour-là au tribunal de Bobigny et qui ont été un peu choisis au hasard par les flics pour les débarquer. En gros, ils ont été choisis comme exemple pour faire taire les autres. Jean-Luc témoigne à la barre, je cite son témoignage, les gens n'ont pas trouvé ça normal, tous les passagers de la cabine se sont levés, sa compagne a été frappée par une policière en la mettant KO, il y avait un homme, je recite, derrière moi en chemise molletonnée à carreaux avec un casque, il se débattait, il criait et quand parfois il ne faisait plus aucun bruit, il ne fallait pas plus de 2 neurones pour comprendre qu'il était en train d'être étouffé. Quand il proteste dans l'avion auprès des policiers, la policière qui avait frappé sa compagne lui répond « Eh bien, pourquoi vous n'avez pas pris la compagnie de votre pays ?» À un moment, interroge la juge, il lui dit que ça lui a fait mal, qu'est-ce qu'elle en savait, de quel pays il était. Du côté des avocats, a priori Armand est noir et du coup la policière a considéré que du coup son pays était un pays d'Afrique et non pas la France. Du côté des avocats, on plaide sur la réaction simple des prévenus. Comment peut-on concevoir qu'en France l'administration se livre à des pratiques barbares et leur demande de ne pas réagir ? Pour le procureur, vous allez voir, rien n'y fait. Pour lui, je cite, ces agissements ont provoqué un retard inévitable de l'avion, car tout déplacement peut déséquilibrer l'aéronef et entraîner sa chute.
Ah.
Déclaration qui a fait, somme toute, assez rire dans la salle. Il a conclu ensuite sa plaidoirie en disant « La seule victime directe, c'est Air France ». Bon, pour dire un truc pareil, il y a de fortes chances pour que son portefeuille boursier soit rempli d'actions Air France. Il réclamera 1 an de prison avec sursis pour Jean-Luc et Armand et 1000 euros d'amende avec sursis pour Caroline, rendu le 22 février. Affaire à suivre.
Et donc, depuis fin décembre, plusieurs dizaines de personnes placées en rétention sont en révolté qui contre les conditions de vie dans les centres donc de Ménil-Amelot, de Vincennes, d'Oissel et de Sète, et les expulsions dans des conditions qu'elles jugent abusives voire illégales. Ça fait donc depuis fin décembre qu'on relaye différents communiqués. Et là, aujourd'hui, je vais vous lire le nouveau communiqué des grévistes du CRA de Oissel à Rouen, publié le 20 janvier. Donc il y a 3 jours. Donc ils sont 13 en grève de la faim depuis le 17 janvier. Donc c'était vendredi, il me semble, le 17. Et parce que la préfecture ne réagit pas, parce que les keufs s'en foutent, ils ont décidé de faire sortir un communiqué expliquant leurs revendications. Donc je vais vous le lire. Ici, il y a des étrangers de l'Union européenne qui ont même pas passé 3 mois en France. Ici, c'est pas un centre de rétention, c'est une prison. La cour est minuscule. Ça ne peut être qu'une prison. Ici, c'est un truc de fou, les policiers sont racistes avec nous. On réclame notre liberté et la fin des interdictions de séjour dans l'espace Schengen. On a ces interdictions parce qu'on a été contrôlé dans la rue. La question, c'est pas si on a commis des délits ou des crimes. Ici, un gars s'est fait violer pendant la fouille. Ils lui ont mis un doigt dans le cul. Pendant 4 jours, il n'a pas pu dormir. Et tout ça, il faut pas que ça reste entre nous et les flics. Ici, les demandes d'asile, ils s'en foutent. Que t'aies des cicatrices, des preuves, ils s'en foutent. Quand t'es menacé de mort au pays, ils s'en foutent aussi. On fait un appel à la solidarité à l'extérieur.
Il faut que ça sache.
Et comme toujours dans cette rubrique, on continue sur des faits réjouissants. En 2 jours, au moins 170 personnes sont mortes à bord de 2 embarcations qui tentaient de traverser la Méditerranée. 3 survivantes témoignent. Jeudi soir, ils sont environ 120 à quitter le port de Gallipoli en Libye. Après 10 heures en mer, le canot commence à prendre l'eau. Sur les 120, ils sont 3 à réussir à se maintenir à la surface plusieurs heures et à être récupérés par un avion de la marine italienne. Le jour d'avant, 53 personnes sont mortes dans les mêmes conditions. 2 jours avant, l'ONG Sea-Watch annonce avoir secouru 47 migrants, tandis que les gardes-côtes libyens en ont intercepté 68. D'après l'ONU, depuis le début de l'année, c'est-à-dire que ça fait 3 semaines, au moins 300 personnes sont mortes en tentant de rejoindre nos côtes. On va avoir quelques nouvelles de Sea-Watch aussi, qui, après avoir été bloqué pendant 2 semaines, pardon, tout début janvier en Méditerranée, dans l'attente d'être accepté par un port européen, plusieurs ONG ont qualifié ce blocage de record de la honte, parce que jamais aucun bateau n'a été bloqué aussi longtemps. Sea-Watch erre une nouvelle fois en mer depuis son dernier sauvetage, depuis 5 jours, avec 40 migrants à bord, dont 8 enfants. Pour l'instant, c'est silence radio du côté des pays libyens. Le porte-parole de l'association témoigne, déclare, l'Union européenne empêche le dernier navire humanitaire de travailler alors que des centaines de personnes meurent en Méditerranée, comme on l'a vu juste avant. Juste après le sauvetage, je continue de le citer, nous avons informé le MRCC, qui est le centre de sauvetage de Rome. Puisqu'il est le port sûr le plus proche de notre position, ils nous ont renvoyés vers les gardes-côtes libyens. Nous avons ensuite essayé de les joindre, en vain. Nous ne savons même pas s'ils lisent nos emails. Du côté des gouvernements européens, on a plutôt l'impression qu'il n'y a aucune volonté, voire plutôt la volonté de ne absolument pas remettre Sea-Watch en route sur les routes méditerranéennes. Ça fait 200 morts.
Sur les mers.
J'ai dit quoi ?
Les routes.
Les routes, ouais, c'est vrai. 200 morts en 3 semaines. Et tous les gouvernements européens, quels qu'ils soient, font barrage à ce navire un peu seul en Méditerranée, accompagné de. Il y avait aussi une ONG qui survole la Méditerranée en avion pour couvrir une zone plus large, plus rapidement, voilà, et qui communique avec. Les postes de secours qui tantôt envoient malheureusement pour les migrants les gardes-côtes libyens et tantôt les ONG.
Sachant que ces bateaux-là, c'est déjà la misère. Même quand ils existent, c'est déjà. Ils peuvent pas sauver tout le monde.
C'est ça.
Du coup, s'ils sont empêchés, c'est juste. Il n'y a plus de aucune solidarité en mer, en tout cas.
C'est ça, et surtout que là, toutes les ONG, ce que constate un peu tout le monde, et que ce soit du côté de la Libye et des gens qui naviguent, c'est qu'en fait, en ce moment, il y a une recrudescence des départs, parce que ça faisait 2-3 semaines qu'il y avait une météo pas très favorable, que là, il semblerait que la météo soit favorable, entre guillemets, mais que ça n'empêche pas les passeurs de faire naviguer des canaux surchargés de gens dans des conditions horribles. Bref, ce qui fait que les canaux en perdition risquent de se multiplier dans les prochains jours.
Et voilà, c'est la fin de ce Canu Info, à part si vous avez quelque chose à rajouter. On finit plus tôt que prévu, n'hésitez pas à écouter tous les jours, à part le samedi et dimanche, les Canu Info de 19h à 20h. Et puis vous pouvez aller lire plein de sites internet militants qui donnent de l'information sur tout un tas d'actualités qui n'est pas à la une de Radio France. Voilà.
Et en attendant, on vous laisse avec genre 20 minutes de bande continue. Et ensuite, on laissera peut-être ou peut-être pas place à Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. C'est possible qu'il ne soit pas encore arrivé dans les studios. C'est possible qu'il soit aussi en vacances. Surprise à vous. En tout cas, rebranchez votre poste à 20h. En attendant, merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.